Și Evanghelis Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte. În vremea aceea, Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de slăbiciune și care era gârbovă de nu putea să se ridice nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste dânsa și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mânuindu-se pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului, 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul, deci veniți în aceste zile și vă vindecați, și nu în ziua sâmbetei. Dar Domnul i-a răspuns și i-a zis fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și dezleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce oare să-l adape, chiar dacă este sâmbătă? Dar această femeie care este fiica lui Avraam și pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cădea oare să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de dânsul.
Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme possédée depuis 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Jésus, la voyant, l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis, il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et rendit gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui dit Jésus, est-ce que chacun de vous ne délie pas de la crèche son bœuf ou son âne le jour du sabbat pour le mener à l'abreuvoir? Et cette fille d'Abraham que Satan tenait enchaînée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ses chaînes le jour du sabbat? Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que la foule entière était dans la joie de toutes les merveilles qu'il accomplissait.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În nom de Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons aujourd'hui, malgré le froid, la catéchèse que j'ai initiée il y a déjà quelques semaines, sauf la semaine dernière, quand on était un peu pressé et j'ai pas parlé. Donc, nous avons commencé une catéchèse sur les passions qui sont présentes dans l'âme de celui qui marche sur la voie du Seigneur. Aujourd'hui, je m'arrête un peu sur une des choses qui sont très actuelles, parce qu'elle regarde la vie quotidienne, la vie de chaque jour, et même notre existence dans une société qui ne peut pas exister sans sont le sujet de mon homélie d'aujourd'hui. On parlera de l'argent, des sous, mais pas de l'argent en soi, mais de ce que les pères de l'Église appellent l'amour de l'argent, ou plutôt, mieux dire, la dépendance de la possession financière. Et je voudrais que vous fassiez attention aux termes. Je ne parle pas de la possession de l'argent, possession financière, mais je parle de la dépendance de la possession financière. Je ne parle pas de l'argent, mais je parle de l'amour de l'argent. Je ne parle pas de la possession de l'argent, mais je parle de l'amour de l'argent. Attention donc pour bien commencer, pour ne pas avoir de malentendus. Qu'est-ce que c'est l'argent dans notre vie? Peut-être que ce n'est pas la peine de donner une définition dans l'argent, mais quand même, c'est l'élément matériel inévitable dans nos vies. Avec l'argent, on vit. Vraiment, avec l'argent, on fait des transactions, avec l'argent, on achète, avec l'argent, on vend, avec l'argent, on se nourrit. Donc, disons que l'argent, c'est une moyenne, une moyenne qui n'a pas en soi de mauvaise qualité. Une moyenne, tout simplement. En même temps, c'est quoi l'argent dans le monde contemporain? Nous assistons de plus en plus à une dématérialisation de l'argent, ce qu'on appelle une spéculation financière. On n'a plus l'argent en matière, mais on a des comptes en banque, on a des choses qui sont dématérialisées, des choses qui ne sont plus en nature, si je peux dire comme ça. Et cette dématérialisation de l'argent, cette présence plutôt dans le domaine bancaire, on dit parfois que c'est une spéculation qui nous a mené à la crise financière dont on participe aujourd'hui. Bon, ça pour introduire un peu les choses. Il y a l'argent. Il y a la possession de l'argent, il y a l'amour de l'argent, il y a la dépendance de la possession financière. Si l'argent en soi n'est pas une chose mauvaise, comme je vous ai dit, ce qui est mauvais, c'est l'amour pour l'argent. L'amour et même être dépendant de cet argent. Les causes, pourquoi est-ce qu'on est assez dépendant de l'argent et pourquoi on entre dans la crise quand il s'agit de la manque de l'argent? Les pères, ils ont découvert trois causes, peut-être il y a plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on est dépendant de l'argent? Tout d'abord parce qu'on aime les plaisirs. Donc on a besoin de sous pour accomplir nos plaisirs. Que ce soit le plaisir du manger, le plaisir plus pécheresse, ou je ne sais pas quoi, on a besoin de l'argent pour accomplir nos plaisirs. Donc c'est clair. Quand il y a un plaisir, il faut avoir des sous pour l'accomplir. Première cause. Deuxième cause, pourquoi il y a des gens qui aiment l'argent, qui aiment avoir beaucoup, beaucoup, qui aiment la richesse? Les pères disent que la deuxième cause de l'amour de l'argent, c'est la vaine gloire. C'est une passion dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, la vaine gloire ou l'orgueil. Avoir la satisfaction que nous avons beaucoup plus que les autres. Voilà. C'est une autre cause pour notre dépendance de la possession financière. Et la troisième, qui est considérée par les pères la plus grave, c'est le manque de confiance en Dieu. Nous voulons avoir une stabilité financière parce que parfois on oublie que celui qui nous donne la stabilité, ce ne sont pas les finances, mais que c'est Dieu lui-même qui nous donne la stabilité. Et donc on aime avoir, on aime ramasser, on aime avoir des richesses parce que finalement nous n'avons plus la confiance en Dieu, que c'est Dieu qui tient tout. Voilà les causes qui ont été devinées par les pères. On veut construire un terrain stable quand on aime la richesse. On suppose qu'on peut construire un terrain stable par la possession financière et l'homme vit toujours avec cette peur de ce qui va suivre. Il veut se stabiliser, il veut avoir regardons un peu le système des assurances. On veut s'assurer pour tout. Je ne peux pas dire que le système d'assurance est une chose mauvaise, mais parfois, la désespoir avec laquelle nous courons vers cette stabilité financière peut nous parler d'une crise intérieure, peut nous parler du manque de confiance dans la stabilité qui peut nous être donnée seulement par notre Dieu, s'il y a la foi, et surtout que la foi, plutôt la confiance en Dieu. Qu'est-ce que disent les pères? Comment remédier s'il y a cet amour d'argent? Quelle méthode utiliser comme remède, comme médicament pour l'amour de l'argent? Et je répète, pour l'amour de l'argent, pas pour une possession normale et nécessaire de l'argent. Inévitablement, la possession de l'argent est une chose inévitable. On ne peut pas se dispenser. Même si on veut être puriste et dire, voilà, on n'a pas besoin, c'est pas vrai. Même notre Église, par exemple, elle vit avec les aides des fidèles, par exemple. C'est inévitable. On ne peut pas se dispenser de ça parce que c'est la société dans laquelle nous vivons et qui... Notre parlant a besoin de ce moyen de commerce. Donc l'utilisation est inévitable et pas du tout une chose mauvaise. Attention, retenez ça. On ne peut pas démoniser la transaction financière. On vit avec, c'est notre monde, on ne peut pas le démoniser, on ne peut pas parler. Mais il faut voir quel type de relation est-ce que nous avons avec l'argent. Parce que posséder l'argent, c'est une question, mais la relation avec la possession de l'argent, c'est une autre chose. Si on possède l'argent avec une manière neutre de se rapporter, voilà, comme un moyen, tout simplement comme un moyen dont je m'utilise, je crois que les choses sont très bien. Mais si je me rapporte à l'argent comme si l'argent est ma vie, et comme si je ne peux pas vivre sans ramasser des richesses, déjà on est un peu dans le milieu du problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se détacher un peu des choses. Se détacher un peu de choses matérielles. Les avoir, mais en même temps être détaché. Les utiliser, mais en même temps les utiliser comme des moyens neutres, je répète, neutres. Comme des moyens qui nous aident pour notre existence, mais qui sont neutres, qui ne deviennent pas notre maître. Parce que c'est ça le risque, que l'argent devienne notre maître. L'argent est neutre, il doit rester neutre. Il ne doit pas aucunement devenir notre maître. C'est nous qui sommes le maître de l'argent, si vous voulez. Parce qu'ils disent les pères dans le Patericon, celui qui n'aime pas l'argent, celui qui n'a pas de richesse, est le maître du monde, parce qu'il est libre, parce qu'il n'a pas un maître au-dessus de lui. C'est lui le maître. C'est pas l'argent qui devient le maître de l'homme, mais c'est l'homme qui devient le maître de l'argent. Les moines dans les monastères, par exemple, même si les monastères sont riches parfois, ils considèrent cette richesse comme rien. Il utilise parfois la richesse pour aider les pauvres, pour le bon déroulement de la vie monastique, mais ils n'aiment pas, ils ne s'investissent pas dans cette possession d'argent. Pour eux, l'argent, c'est comme rien. C'est comme rien. Et je crois que c'est une bonne attitude. Avoir, mais les considérer comme rien, comme un moyen neutre. Deuxième remède, deuxième médicament, si vous voulez. Toujours gagner correctement. Gagner correctement. Toutes les choses qui ne sont pas gagnées correctement deviennent pour nous un idole, une fausse icône, une fausse cible. Gagner correctement. Personne ne va pas vous dire rien. Gagner correctement, je crois que c'est la meilleure solution. Quand j'ai gagné mon salaire, par exemple, c'est mon salaire. Je sais que j'ai travaillé pour mon salaire. Donc il n'y a pas de risque pour que ça devienne un idole pour moi. Dès que je commence à avoir une relation idolâtre avec l'argent, que je gagne pas correctement, déjà on est dans le problème. Avoir une autre solution, avoir une direction relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par ça, direction relationnelle? Toujours penser que notre argent peut servir à l'autre. Ne ramasser pour nous-mêmes, ne mettre à côté seulement pour nous-mêmes, mais penser à l'autre. Voilà, je gagne pour aider, surtout ma famille, surtout mon épouse, mon époux par exemple, mes enfants, aider les autres. Ne pas se coincer dans des comptes bancaires qui vont être d'un plus en plus grands. Non, donnez aux autres, donnez toujours aux autres. Vous allez voir quelle grâce il y a dans cette donne que vous faites. En commençant avec votre famille, par exemple. Il y avait un père qui disait que on connaît l'âme d'un chrétien après les cadeaux qu'il fait à son épouse. On connaît l'âme du chrétien après les cadeaux qu'il fait à son épouse. Après combien de fois est-ce qu'il invite encore son épouse en ville, manger ensemble? Parce que parfois, nous avons cette perspective, voilà, il faut faire des économies, il faut éviter. Non, non, non. Faites des dons aux autres. Faites des dons aux autres et vous allez voir comment est-ce que ça peut vous aider de changer la perspective. S'il y a l'amour de l'argent dans vos âmes, vous allez voir que petit à petit, vous pouvez vous débarrasser de ça. Mais attention, il n'y a pas seulement la famille qu'on doit envisager. Parce que sinon, même dans le cadre familial, on peut élargir un peu le cercle de notre égoïsme. Et on ramasse pour notre famille seulement. Non, attention aux autres. Attention aux autres qui vraiment ont besoin de votre aide. De votre aide. Donc, je ne le fais pas pour moi seulement. Je ne gagne pas seulement pour moi. Je ne gagne pas seulement pour ma famille. Mais je gagne aussi pour aider les autres. Et un dernier point, peut-être qu'il y a plusieurs aussi, mais je me suis résumé à quelques remèdes. Ne gagnez pas pour une consommation inutile, pour une consommation qui n'entre pas dans les limites normales d'une consommation humaine. Attention. Je n'ai pas des exemples pour vous donner, mais attention à ça. Ne gagnez pas pour consommer inutilement. Inutilement. C'est vrai que la question de l'argent et la question de la richesse, c'est pas simple. Et dans une homélie, on n'a pas le temps de tout regarder. Et ça se voit à chaque cas, à chaque personne, avec chaque personne qui a ce problème. Mais je peux dire que le problème de la richesse n'est pas simple. Parce que par exemple, c'est pas commode de savoir que tu as et qu'il y a des milliers, des millions de gens qui n'ont pas quoi manger aussi. C'est une perspective, il faut penser à ça. Quand nous avons et que les autres n'ont pas quoi manger, donc déjà ça nous problématise un peu. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me relationne avec ma richesse? Comment est-ce que je peux supporter ma richesse? Comment est-ce que j'envisage, qu'est-ce que j'envisage à faire avec ma richesse en ce qui concerne l'autre surtout? Parce que l'autre, dans la perspective orthodoxe, c'est le Christ même. Et si la richesse reste qu'à nous, il y a un problème parce que nous sommes tous en fait censés de regarder les autres comme des fils de Dieu, comme ayant les mêmes chances pour le royaume de Dieu, donc un peu comme une famille élargie. Donc à voir ça. Et il y a encore un aspect, une tentation. Il y avait, peut-être il y a encore, des chrétiens qui disent, voilà, je vais gagner beaucoup pour aider les autres. Ça, c'est une autre danger. Même si je vous ai dit tout à l'heure que si vous êtes riche, vous pouvez aider les autres, ceux qui n'êtes pas riches, ne cherchez pas à être riches en invoquant le motif que vous allez aider les pauvres. Les pères disent que c'est une tromperie du malin, ça. Parce qu'une fois entré dans le tourbillon du ramassage de la richesse, il nous assure, les pères, qu'on va oublier vite les pauvres. Vite. Les dessous de la veuve de l'évangile ont suffi pour que la veuve puisse gagner le royaume. Attention. Les deux sous, les deux argent qu'elle a jeté dans la corbeille du temple, Le Christ dit, voilà, avec ses deux sous, elle a gagné le royaume. Donc ne vous trompez pas que si vous allez commencer d'en plus en plus gagner d'en plus en plus, vous allez pouvoir développer des choses. Les risques sont assez élevés. On peut faire ça, peut-être si on est stable et si on est ferme dans notre perspective, mais parfois on peut glisser vite vers l'amour de nous-mêmes. Imaginez-vous que vous allez gagner au loto, par exemple, 1 million d'euros, et avant d'acheter le billet, vous avez dit, voilà, si je gagne 1 million d'euros, je vais bâtir un hôpital pour les malades, par exemple. Et une fois que vous avez gagné 1 million d'euros, je vous assure que vous n'allez plus avoir la même perspective. Et que peut-être vous allez dire, voilà, c'est mieux de repenser ma décision, peut-être c'est pas une bonne intention, peut-être c'est mieux de le laisser dans la banque, peut-être ça va ramasser encore des sous, et petit à petit, vous allez vous éloigner du but initial. Ça peut arriver, donc attention. C'est ça qu'ils disent les pères, c'est pas moi qui dis. Un autre remède, donc j'ai dit la modération en tout ce qu'on fait, si on gagne, et si on gagne beaucoup, la modération, toujours dans l'utilisation de notre argent. Et toujours remercier à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Remerciez toujours. Si vous avez une vraie foi en Dieu, considérez que votre argent qui est entré dans votre compte, c'est aussi, il est venu parce que c'est Dieu qui a voulu ça. Parce qu'on confesse tous dans la divine liturgie, je crois en ce Dieu, le Père Tout-Puissant, celui qui tient tout dans ses mains. C'est lui qui, comment dire le terme en français, c'est lui qui organise les choses de telle manière que ça soit propice pour chacun d'entre nous. Donc si nous sommes en possession d'une certaine richesse, d'une certaine légèreté financière, n'oubliez pas de considérer cette légèreté financière comme un don de Dieu et comme une responsabilité aussi. Attention. Toujours soyez dans l'état de remerciement. Voilà, Seigneur, tu m'as donné ça, je ne suis pas digne, mais je te remercie. Et illumine-moi la pensée pour que je sache qu'est-ce qu'il faut faire avec ce que j'ai. Toujours demander l'aide du Seigneur, toujours remercier, toujours se mettre à la disposition du Seigneur. Qu'est-ce qui nous appartient dans ce monde? Rien. Rien. Soyez conscient de ça, qu'on est poussière et on va retourner dans la poussière. Rien ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient pas. Et si Dieu nous a confié des choses, sachez que c'est avec un tel but, avec une telle intention, et entrez dans la logique de Dieu. Utilisez votre argent comme un moyen neutre et ne vous donnez pas la vie. Ne tombez pas dans la dépendance et l'amour financier, l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer un peu? La richesse, je dirais que la richesse n'est pas un état objectif, mais je dirais que c'est un état subjectif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on peut avoir 1000 euros dans notre poche et se gonfler d'orgueil et considérer que personne n'a pas comme nous, et on peut avoir des millions d'euros dans nos comptes et d'être humble et de se considérer, comme je disais tout à l'heure, des poussières et de faire notre argent travailler pour les autres. Donc attention, c'est un état subjectif, c'est pas la somme, c'est pas la quantité qui nous accuse, mais ce qui nous accuse, c'est la relation avec cette quantité. Je répète, on peut avoir 2 euros dans notre poche et ne pas avoir le cœur de donner à quelqu'un. On peut avoir des milliers d'euros, on peut avoir le cœur élargi, donné aux autres. Donc, on peut être meilleur que celui qui s'attache à ces 2 euros dans sa poche et qui ne veut pas s'ouvrir envers les autres. Donc, tout c'est subjectif. Il n'y a pas des états objectifs. Disons, voilà, sont condamnables ceux qui ont des richesses, ils ne sont pas condamnables ceux qui n'ont pas des richesses. Non, sont condamnables ceux qui s'attachent à leur petite ou grande richesse, et ne sont pas du tout condamnables ceux qui ne s'attachent pas à leur petite ou grande richesse. Et je répète,
penser, et voyez toujours ça dans la sagesse de notre Dieu. Toutes les choses matérielles que vous possédez, voyez-le dans la perspective de cette préscience, de cette science à toute puissance de Dieu. Parce que, en fait, c'est chez lui que nous nous rapportons toujours, qu'il faut se rapporter toujours dans tous les détails de notre vie. Donc, voilà, j'ai esquissé un peu, j'ai fait une esquisse de ce que le Père parle sur l'amour de l'argent. Et je répète, l'amour de l'argent et pas l'argent en soi-même. L'amour de l'argent. Voyez un peu en vous-même quelle est votre relation avec vos comptes bancaires. Si vous êtes tombé amoureux de votre compte bancaire, ça signifie que c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Mais si vous considérez votre compte bancaire comme une chose neutre, une chose en moyenne, un simple moyen, je crois que vous êtes sur le bon chemin. Et essayez d'être libre dans le rapport avec l'argent. Je répète, j'aime beaucoup cette phrase de ce père qui a dit : c'est pas vous qui êtes les esclaves de l'argent, mais c'est l'esclave, c'est l'argent votre esclave. C'est l'argent votre esclave. C'est vous le maître. C'est vous le maître. C'est pas l'argent qui nous domine. Parce que si c'est l'argent qui commence à nous dominer, on a fini avec la liberté. Et la vie en Dieu, c'est la liberté. C'est la liberté. Le moine qui n'a rien, il est le maître de l'univers, dit le Pater Icone. Que Dieu nous aide de comprendre un peu cette relation avec l'argent dans nos vies, qui est une réalité de chaque jour. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le cacher sous le tapis parce que ça existe. Il faut voir bien la perspective de Père de l'Église, comment est-ce qu'ils ont vu ça. Et pour finir, je résume. Ce qui compte, c'est la relation avec l'argent. Retenez ça, et si vous avez retenu ça, je crois que vous avez beaucoup gagné dans votre perspective. Amin. Que Dieu nous bénisse.
Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
Doamne, miluiește!
Doamne, destăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește!
Doamne, miluiește!
Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește!
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Pentru Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru Preasfințitul Episcopul nostru Marc și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
Doamne, miluiește!